RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous. Après l'enthousiasme de la semaine dernière, les Bleus nous ont fait redescendre sur terre en achevant leur tournoi en eau de boudin. Ni succès dans le tournoi, ni victoire contre l'Écosse. Il faudra attendre au moins une année supplémentaire avant de connaître à nouveau l'ivresse de l'altitude et des succès. Alors, certes, les Bleus terminent deuxième pour la deuxième année d'affilée, oui, mais au vu du potentiel, on espérait plus et mieux. Cette équipe de France est-elle toujours en phase de progression ou a-t-elle atteint ses limites? La mêlée des poteaux va tenter de démêler, justement. Tout ça, un tournoi serré, remporté au final par le Pays de Galles, mais à titre individuel, qui vous a le plus régalé? Un Bleu, un Gallois, un Écossais, voire un Irlandais ou un Anglais? Dans quelques minutes, nous procéderons à l'élection du frelon du tournoi. Titre qui ne reviendra pas, loin s'en faut, à la Fédé et sa communication. Pierre Amiche a quelques gifles à asséner et il ne va pas s'en priver. Et puis quand reverrons-nous nos Bleus en action? Peut-être pas de sitôt, nous dira tout à l'heure Wilfried Templier ou Jeff Paturo, je ne sais plus. En tous les cas, ils sont là tous au départ de cette entre les poteaux pour le dernier rendez-vous du tournoi 2021. On a donc rangé les sourires et affûté les couteaux, les poteaux emmenés une fois de plus par le très critique, très acerbe Denis Charvet.
Ah bon?
Oui. Tu es connu pour ça. Philippe Saint-André s'en souvient encore.
Hein. Quand on le mérite, oui.
Manu Massicard, lui, est beaucoup plus mesuré que toi, hein, même si lui aussi, il a sans doute des choses à dire. Salut Manu.
Oui, je suis... Oui, j'ai
fouin.
Des choses à dire, messieurs, chers amis. Chafouin, ouais, déçu, ouais. Ça va pas bien depuis vendredi.
Oh là 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 là. Tout cela sans oublier les snipers d'RMC. J'ai donc nommé Wilfried Templier, Pierre Amiche et Jeff Paturo. Ils sont nombreux aujourd'hui. Salut les garçons.
Bonjour. Salut, bonjour. Salut.
Une défaite, la deuxième, un tournoi qui s'envole et au bilan un satisfaisant mais peut mieux faire comme nous en avons connu si souvent durant nos années de collège.
Il va falloir confirmer ce qu'on a pu faire l'année dernière. Donc on est dans cet état d'esprit-là de ce premier gros match contre l'Italie.
On jouera avec Dylan Cretin. Et l'essai ! L'essai pour Dylan Cretin !
Il y a une grosse satisfaction de gagner.
Tous les matchs vont être clés dans cette compétition, vu qu'on veut la gagner.
On a travaillé bien sûr par rapport à ça et par rapport aussi à la configuration des Irlandais.
Dupont maintenant pour Jalibert sur l'extérieur. La passe pas assurée, mais c'est récupéré par Ficou. Ficou pour Olivon. Allez, allez Charles Olivon ! Le premier essai français ! Premier essai français signé Charles Olivon.
C'est tendu, Vincent, à Marcoussis où le 15 de France est censé préparer son troisième match du tournoi Destination France-Écosse prévu dimanche à 16h. Depuis la fin de semaine dernière, c'est l'hécatombe. 14 membres du groupe France élargi ont été testés positifs au Covid.
Tout a été évoqué lors de notre première réunion. On a très vite basculé surtout sur le match parce qu'on a très peu de temps pour préparer la rencontre.
Attention, 4 points d'avance pour l'équipe de France. Ils sont à 2 mètres maintenant avec Itoje. Oh l'essai ! À 3 minutes 30 de la fin, il fait passer l'Angleterre devant d'un petit point, 21 à 20.
Là le match, on est devant jusqu'à 3-4 minutes de la fin, donc c'est vrai qu'il y a ce goût de la défaite qui est instantané, qui est sur la fin du match.
Serein pour Olivon pour El-Tabak, El-Tabak pour Ficou, extérieur, l'essai. Le pilote du tournoi Destination, c'est parti entre la France et l'Écosse. Ouh là 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 là, Ali Price encore dans le fermé à la Mastix. La sautée, peut-être l'essai écossais. Et ils se sautent dans les bras les uns des autres. Il est signé Duan van der Meer qui va donner la victoire à l'Écosse.
Chaque match est une histoire et chaque match est vraiment difficile à jouer et à gagner.
C'est pas faux.
Un petit résumé de ce tournoi. On est vraiment passé par tous les sentiments. Wilfried s'est fait un peu secouer, un peu moins vendredi dernier, évidemment, après ce match face à l'Écosse. Hein, Denis,
oui,
tu as été plus calme.
Oui, on était abattu. Alors ouais. Donc, si tu veux, c'était moins l'euphorie que l'autre la semaine dernière.
Ah, ça, c'est évident. Hein. C'est vrai que ça nous laisse quand même un
en
goût
même temps,
amer.
Heureusement que c'est pas tous les matchs comme ça. Parce que...
Ouais, t'aurais plus de cerveau, mon petit gars. Évidemment, goût amer donc dans la bouche, d'autant que nous rêvions peut-être un peu trop fort de remporter enfin ce tournoi après cette fin de match euphorisante donc face aux Gallois. Samedi, l'euphorie fut écossaise. Adieu, veau, vaches, cochons et tournois après l'édition 2020, puis la Coupe d'automne. C'est donc une nouvelle deuxième place à laquelle les Bleus semblent abonnés. Wilfried, on est un peu les nouveaux poulidors du rugby, quoi. Hein.
Ouais.
Ouais, sauf que contrairement à Poupou avec le Tour de France, les Bleus ont déjà gagné le tournoi par le passé et en gagneront d'autres, pas un de vous n'en doute, malgré tout ce qui va pouvoir se dire dans ce podcast. Mais effectivement, c'est une deuxième place de suite, alors avec une défaite de plus dans le bilan que l'année dernière, ce qui me fait dire que si on n'a pas régressé, on peut pas dire non plus qu'on a progressé. Comme l'an passé, cette équipe est capable de merveilles offensives sur le terrain. On gardera, mais sur mémoire, les essais en Angleterre de Dupont après un coup de pied à suivre de Teddy Thomas, toujours à Twickenham, celui de Penaud en première main sur cette désormais fameuse combinaison appelée Toulouse. Et oui messieurs, il n'y a pas de hasard. On retiendra aussi la victoire en mode costaud à Dublin ou cette magnifique révolte face au Pays de Galles qui a fait chavirer de bonheur tous les supporters et les suiveurs de cette équipe. Mais voilà, il y a aussi eu des trous d'air. Alors Covid ou pas Covid, chacun jugera, mais le très haut niveau, c'est aussi la maîtrise. Et si oui, c'est encourageant d'être si près du but, mais perdre de 3 ou 4 points comme en Angleterre ou face à l'Écosse, ce n'est pas gagné. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte de presse pour dire ça, mais quand on nous dit on n'était pas loin, l'excuse de la défaite encourageante, on l'a eu pendant une décennie. Non, et on est plus tellement excité par cette équipe qu'on attend d'elle plus que des moitiés de match et qu'on veut la juger de la même manière que les meilleures nations. Demandez aux Gallois s'ils en retireraient quelque chose de s'ils en ont retiré quelque chose de perte de 2 points en demi-finale de Coupe du Monde contre les Box ou si un peu plus loin, hein, les Bleus du sautoir n'ont toujours pas en travers de la gorge leur défaite d'un point contre les Blacks en finale en 2011. Bref, on sent que nos Français sont toujours là. On a trouvé que leur défense étouffait moins l'adversaire et qu'ils faisaient moins joujou avec les mecs d'en face qu'en 2020 quand on passait Angleterre-Galles ou Irlande à la moulinette. C'est sûrement un palier normal, mais maintenant, il faut le deuxième étage de la fusée bleue. À vous de dire ce qu'il faut pour quitter les habits de Poulidor. En gros, que manque-t-il pour devenir Jacques? Vous l'avez?
Eh oui, Jacques Anquetil, évidemment, pour passer du maillot de Poulidor au maillot jaune. Ah oui, non, mais monsieur a une grande culture cycliste, ça se voit. Deuxième, évidemment, c'est mieux que durant les années noires, mais ce n'est pas encore ça. Il en pense quoi, le président Laporte? Tiens.
On est tous déçus, effectivement, d'avoir perdu ce dernier match, d'autant plus qu'avant le match, il y avait une possibilité infime, quand même, hein, de gagner ce tournoi. Mais bon, l'équipe de France aurait pu gagner, elle perd à la fin, dans les dernières secondes. Ça montre que ce tournoi a été serré. Je retiendrai tout simplement le bilan. Bon, l'équipe de France finit deuxième, deux fois d'affilée, puisque c'était deuxième lors du dernier tournoi, ex aequo avec les Anglais. Donc voilà, encore une fois, laissons cette équipe travailler. Elle a un an d'existence, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Et leur dire bravo, parce qu'ils sont quand même deuxième.
Voilà, quand même deuxième, nous dit Bernard. Alors faut-il s'en satisfaire, se dire que l'équipe progresse encore, ou bien se demander si elle n'a pas atteint ses limites? Il est l'heure d'entrer dans la mêlée des poteaux. Messieurs, deuxième, est-ce que nous sommes à notre place déjà, à cette place de deuxième, Denis, est-ce que tu es satisfait de ce bilan?
Non. Non, mais juste titre, je pense que on peut pas passer sous silence quand même l'effet du Covid, l'effet désastreux du Covid dans ce tournoi, les conséquences qu'il y a eu, notamment lors de ces deux derniers matchs où on a payé au cash cet état du physique qui a manqué, cette fraîcheur qui manquait et qui était là les deux premiers matchs du tournoi. Donc le bilan il est contrasté.
Donc pour toi, l'excuse Covid est une bonne excuse, c'est une bonne explication. Mais par rapport clairement de l'équipe de France durant ces trois matchs.
Si tu regardes un peu ton analyse la vérité c'est que tu manques totalement de maîtrise dans les deux derniers matchs, alors que c'était ta force dans les deux premiers. Donc c'est.
Oui, mais ça c'est dans la tête.
Mais c'est physiquement. Le problème, tout est lié. Le physique est lié à la lucidité.
Je crois que Dulin il tape pas en touche parce que. Mais regarde, parce qu'il y a l'équipe a été touchée par le Covid.
Comment tu expliques qu'on subit tous les duels contre l'Écosse où il y a 61% d'occupation, que chaque fois qu'ils nous rentrent dans la gueule, on recule, donc que la défense recule. Et alors que quand on joue les deux premiers matchs tournois, on avance tout le temps en défense sur l'homme.
Est-ce que c'est
peut-être le but?
Est-ce que c'est pas aussi parce que les équipes, comme le Pays de Galles par exemple, Manu, a su justement voir les défauts de l'équipe de France et travailler là-dessus en visant la zone du 10 par exemple. Ils ont bossé eux aussi. L'année dernière, ils ont été surpris, mais ils ont bossé depuis.
Il y a un peu de ça. On n'a pas progressé forcément dans tous les secteurs. Vous l'avez dit, on a régressé défensivement. Et à l'inverse, nos adversaires nous ont décrypté. Ça a été le cas contre le Pays de Galles. Ça a aussi été le cas contre l'Écosse, où ils sont venus nous chercher plus régulièrement dans cette zone entre le 9 et le 10. Et pour le coup, là-dessus, oui, on a été décrypté et on a eu du mal à s'adapter. Après, je rejoins un petit peu Denis. Hein. Il y a l'usure physico-mentale qui nous fait mal parce que ce tournoi a duré 9 semaines, une de trop forcément.
Très long.
Et c'est la faute du Covid. On en reviendra toujours à cette histoire de la bulle. On ne sait pas si on aurait gagné le grand chelem en temps normal, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tout fait pour ne pas le gagner. Cette équipe a énormément de mérite d'avoir terminé le tournoi comme elle l'a fait, par une victoire contre le Pays de Galles et un gros match contre l'Écosse, parce qu'elle aurait pu exploser en vol totalement.
Et c'est vrai, Wilfried, Jeff, que quand on voit les stats d'avant de la première partie du tournoi, donc avant la crise Covid et celle d'après, il y a une vraie différence quand même.
Il y a une vraie différence, mais c'est vrai que cette victoire en Irlande, c'était un succès historique. Depuis 10 ans, c'était pas arrivé. Bon, l'Italie, c'est un match à part, puisque tout le monde bat l'Italie avec le bonus offensif. Et après, l'enchaînement des matchs a fait mal à cette équipe. Mais moi, je voulais rebondir aussi sur ce que disait Denis. Il y a un manque de maîtrise. C'est pas seulement du physique. Parfois, dans les moments clés, vous y êtes pas, vous savez pas le gérer, vous avez pas, peut-être pas assez de taulier, vous avez pas assez de bulles, vous avez pas assez de recul. Il manque encore plein de choses à cette équipe de France, qui est assez jeune aussi encore.
Après, c'est lié, Jeff. La maîtrise est liée à lucidité, au physique. Tout est lié pour moi. Donc,
le jeu au pied.
Romain a été blessé. Il revient de blessure. Donc, le petit Dupont, il est cramé, il est carbonisé, le petit Dupont.
Il fallait faire moins jouer aussi.
Il fallait pas être faire entrer le petit Serein à la 60e minute.
Ah bah oui, on voit notre défense, messieurs aussi. Hein. Oui. On prend 10 points en Italie, c'est difficile avec l'Italie, mais on laisse les Irlandais à 13 points. Derrière, on en prend 23 contre l'Angleterre. Et après, ça monte. 30 contre le Pays de Galles, même si on gagne. Et là, 27 contre l'Écosse. On n'était pas habitué à ça. Et quand on dit, par contre, il y a un truc que je comprends pas, parce que on en reparlera peut-être avec le staff, mais il y a un truc qui m'a frappé. Vous avez eu l'interview de Dulin, Manu, dans Middle. Il dit, mais j'étais cramé à la fin. Ouais. Et Boutier, il est sur le banc, hein. Il est pas rentré.
Il a fait combien de minutes, Boutier, sur le tournoi?
Il est pas rentré. Je l'ai pas, mais il est pas rentré vendredi.
Zéro. Ça, c'est une énigme, au niveau du coaching, qui a été raté en Angleterre, on le sait, qui a été réussi contre le Pays de Galles. Mais peut-être qu'il a été réussi parce qu'il y a eu des blessures qui ont enchaîné, si tu veux, la bonne attitude du staff. Mais après, moi, hier, vendredi soir, quand tu vois le petit Dupont, du haut des tribunes, comment il est émoussé, comment il fait des mauvais choix, comment tu vois que le gamin il est pas explosif, donc il manque tout et il fait rentrer le petit Serein à la 60e minute. Tu risques quoi?
Qui prend un carton en plus.
Tu risques quoi? Il sort le petit Serein, il rentre à la 72e je crois, ou 10e.
Il
n'y
a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard ce carton. Hein.
Non.
C'est tout ce qu'a vécu Serein pendant ce tournoi Angleterre-Galles, et ben voilà, c'est ce qui se passe derrière.
Une équipe de France à qui l'on reproche également son manque de leader. On va écouter à ce propos Grégory Aldrit, qui n'est pas tout à fait d'accord avec cette théorie.
Non, clairement pas, je pense pas qu'il ait manqué de leader sur le terrain. Il y a des leaders, mais il faut aussi beaucoup de soldats, parce qu'on ne peut pas jouer à 15 leaders. Et je pense que ça soit derrière ou devant, il y avait ce qu'il fallait là-dessus. Et je pense que tout le monde sur le leadership ou son rôle a joué le bon rôle aujourd'hui.
Voilà, Grégory Aldrit qui nous parle des leaders. On a beaucoup parlé de Charles Olivon la semaine dernière, qui a été un capitaine exemplaire, mais là, vendredi dernier, il y a quand même des...
Mais non, mais il a été comme les autres, il a été moussé aussi, il n'est pas au-dessus des autres, il ne fait pas le match qu'il a fait contre le Pays de Galles, c'est certain.
Moussé, je suis d'accord, Covid, machin, tu sais combien il y a de matchs dans une Coupe du Monde, combien il faut enchaîner de
performances de niveau? Oui, mais là, on est à 9 semaines, c'est ce que disait Manu. 9 semaines,
tu joues pas tous les week-ends.
Oui, il a raison, Christophe.
Non, mais le problème, c'est que le rythme, tu l'as parce que tu joues. Là, t'as pas joué pendant 15 jours, 3 semaines. Donc pendant un mois, donc si tu veux, il a fallu recommencer une préparation qui a été totalement biaisée sur la continuité. Et là, il arrive ce qu'il arrive.
Comme Denis, vous partagez cette opinion.
Non, moi, c'est mon sentiment.
On met tout sur le dos du Covid.
Je mets pas tout, mais je me dis, il y a qu'à voir le début du tournoi d'équipe de France. L'agressivité en Irlande que t'as eu dans les duels, dans le combat, je suis désolé, tu l'as plus après,
Manu, je sais pas ce que t'en penses, mais on a une charnière qui est émoussée un peu, qui pèse moins sur les matchs, je pense, sur la fin du tournoi, quoi. Et des leaders, non, il y en a quand même, non, Ficou,
bien sûr, des leaders,
Olivon, c'est pas un problème de leader, hein. Aldrit, mais il y a des
dans les lignes arrière, t'en as pas 100 000 des joueurs qui parlent à part Ficou, qui donnent de la voix, qui sont des vrais capitaines, des vrais exemples.
Le petit Dupont, te le montre l'exemple, mais là il a pas pu te le montrer ce vendredi soir. Ça a été quand même un point dur. Le Dupont, quand il est en forme, il te change une partie. Là, tu sentais que le gamin, il n'était pas dans son état.
Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer si on veut devenir un vrai prétendant à la victoire dans la Coupe du Monde, qui se rapproche quand même, hein, parce que là, on a beau dire, oui, c'est en 2023, mais bon, il nous reste plus que deux tournois avant l'épreuve mondiale. Manu, qu'est-ce qu'il faut changer? Comment faire? Est-ce qu'il faut arrêter d'être indulgent avec Galtier et son staff? Est-ce qu'ils sont en cause aussi dans ce résultat mitigé du tournoi?
franchement, on a des leaders, on a des joueurs qui sont habitués à jouer des fins de match au couteau. Ils ont besoin encore de progresser, ça c'est certain. De gagner en maturité, oui, évidemment. Et je pense que le top 14 est une compétition qui doit les aider et qui va les aider à mûrir. Je parle des Aldridge, je parle des Olivon, je parle de Ntamack et Dupont, de Jalibert qui va prendre de la bouteille, qui ne sera pas simplement un formidable joueur de rugby, mais aussi un disque qui pèse sur le jeu. Ce qui, moi, me manque, surtout, ça va être un banc. 25 à 30 joueurs de niveau égal. Aujourd'hui, on a un 15 de départ. Allez, 18 à 20 joueurs qui se dégagent. Et derrière, on a un creux. On voit bien qu'on est un peu bloqué en l'absence de Bamba au niveau des piliers. En deuxième ligne, on n'y voit pas très très clair, même s'il y a eu de bonnes surprises. On a besoin de joueurs qui s'affirment. On a besoin de retrouver tous les postes doublés. Et je pense qu'à ce prix-là, on pourra dire qu'on peut gagner le tournoi. Là, on a une très belle équipe, mais il nous manquait un banc très fort pour coacher. Et c'est sans doute peut-être... Enfin, c'est sans doute ce qui a bloqué Galtier sur la gestion de ses fins de match, pour le coup, qui ont été catastrophiques contre l'Angleterre.
Face au Pays de Galles, la fin de match, justement, je pense qu'on réussit est dû aussi au banc, quand même.
Je te parle de l'Angleterre. Ouais.
Moi, aujourd'hui, on voit que dans le rugby international, toutes les rencontres se jouent en fin de match. Et là, je rejoins totalement Manu, où le banc fait souvent la différence. Tu regardes tous les matchs, c'est souvent le banc qui fait la différence. La gestion de ce banc est fondamentale. Voilà, donc il va falloir travailler sur ça, sur cette gestion-là.
On
n'avait
peut-être pas tous nos moyens physiques, on en revient au
Covid
aussi.
Non, hein, mais je parle de cette gestion-là, peut-être, mais après, ce qui est intéressant...
Serein, il n'est pas touché par le Covid. Là, c'est un problème de confiance.
Oui, mais il y a 9 joueurs contre l'Écosse qui ont eu le Covid. Mais 8 et 7 rentrer, sur les matchs d'avant. Mais...
Serein peut rentrer, il est frais. C'est un problème de confiance. On ne fait pas rentrer.
Ouais, mais il arrive après plusieurs fautes. C'est pas lui qui fait les fautes d'avant. Il prend le jaune, il est mal.
C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'on n'a peut-être pas confiance en lui. Et c'est pour ça qu'on le fait pas rentrer. Et malheureusement.
Sur une photographie comme celle de fin de match, t'es obligé de le faire rentrer. Malheureusement, tu le fais rentrer trop tard et puis il prend ce carton, malheureusement.
Il était capitaine de l'équipe.
Moi, je pense quand même qu'on a une leçon à retenir de ce dernier match, c'est ce manque de maîtrise. Donc, réfléchir pourquoi il a manqué autant de maîtrise, autant on est passé à côté, que ce soit contre le Pays de Galles ou l'Écosse. Donc,
parce qu'on est cramé complet.
Oui, non, mais d'accord. Il y a l'explication de cette fatigue générale qui entraîne évidemment d'un manque de lucidité. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que collectivement, tout d'un coup, le collectif s'étiole, que la défense qui est super performante chez nous, tout d'un coup, elle devient faible.
Jeff, tu as rencontré les gens du staff, enfin, évidemment à distance réglementaire. Est-ce qu'ils sont conscients des points améliorés et sur quel point, justement, veulent-ils mettre l'accent dans les 2 années qui nous séparent de la Coupe du Monde?
Ce qui est un peu compliqué, c'est lorsqu'on a parlé de coaching avec le staff, les membres du staff étaient droits dans leurs bottes, notamment après le match contre l'Angleterre, en disant qu'il n'y avait pas eu d'erreur de leur part. Ils vont devoir eux aussi se remettre en cause, puisque faut rappeler que c'est quand même le staff le plus pléthorique qu'il y a eu depuis très longtemps en équipe de France. Chaque secteur a sa spécialité. Sean Edwards pour la défense va devoir peut-être réinventer son discours, puisqu'on a vu qu'il
s'est pas très bien passé, même si pour un problème personnel, il n'avait pas
pu être là pour la semaine contre le Pays de Galles. Mais c'est vrai que peut-être il va falloir réinventer un nouveau discours, puisque cette deuxième édition du tournoi d'assignation pour Fama Galtier et son staff devait être celle de la victoire. La victoire, ça devait être l'objectif de cette équipe de France. On veut gagner des titres. Voilà ce qu'il disait ces dernières semaines. Et il faut rappeler que c'est un échec, tout simplement, de finir encore une fois deuxième sur le papier. C'est un échec.
Deuxième pour la troisième fois d'affilée, hein, parce qu'il y a eu la Coupe d'automne des Nations. Hein,
surtout après le discours de
Fabien Galtier au début du tournoi, qui dit cette équipe, il faut qu'elle gagne des titres.
Exactement.
Il a raison, parce qu'il faut gagner des titres pour avoir confiance et essayer de battre les meilleurs.
Ok, quels sont les joueurs qui vous ont convaincu, qui semblent indispensables à l'équipe de France, et ceux sur lesquels, enfin les postes sur lesquels il y a encore un peu d'incertitude? On en parlait quelque peu tout à l'heure, le poste d'ailier notamment.
La révélation Jalibert, de toute façon.
Jalibert qui a été encensé par le président de la Porte. Hein. Ah ouais, là, je veux dire.
Non, mais il a pas dit ça. Il a dit que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on n'a pas deux ouvreurs du même niveau.
Ouais.
Et tant mieux.
Ouais, mais bon.
Mais il en a mis un en exergue.
Après, sur le tournoi, tu peux pas enlever la performance de Dupont, malgré cette fin de tournoi difficile.
Dupont, Aldrit, Baye, Marchand,
Olivon,
Willem C.
Willem C. Il y en a plein des bons, les mauvais. Enfin, ceux qui sont un peu en bas.
Non, pas les mauvais, pas les mauvais. Les postes qui restent à la première ligne, en pilier. Peut-être une place en deuxième ligne.
Ah, et... mais en pilier à droite alors.
Oui, ouais, ouais. Ouais, à droite. Parce qu'à peut-être gauche... une place en deuxième ligne.
En troisième ligne aussi, peut-être François Cross, non, qui pourrait avoir une.
Ouais, ouais, il va revenir, mais t'as du monde.
Il y a Jelonge qui est
calme. Il y a le poste d'ailier, et puis je suis désolé, mais il y aura aussi la question de l'arrière. Il faudra qu'on trouve peut-être un autre pied, peut-être une autre solution, peut-être tester Jalibert. Un jour ou l'autre, Brice Dulin a été bon. Aussi montré ses limites sur le dernier match. Il va falloir qu'on se projette plus loin.
Il y a l'éternelle question de Teddy Thomas, qui nous on l'écrivait dans un papier. Moi, c'est ses allers-retours entre Clark Kent et Superman, et ça pose la question des ballons hauts. C'est culturel chez nous depuis des années, et on a encore été en difficulté contre le Pays de Galles, contre l'Écosse sur des ballons hauts. Mais et vous savez très bien que quand on va jouer les Blacks, quand on va jouer l'Afrique du Sud, on sera arrosé. Ouais, si jamais on ne prend pas le niveau là-dessus,
va revenir a priori.
Ouais, mais c'est pas qu'avec Villiers que tu vas faire la.
Oui, mais non, Dulin qui a été si bon ces derniers mois, là c'est Dulin qui a été en difficulté contre l'Écosse, qui a fait deux trois petites erreurs, et au très très haut niveau, ça on ne peut pas.
Bon, alors, on va parler justement des performances individuelles, mais pas seulement celles des Français, puisque nous allons maintenant, donc, élire, ben oui, on le fait ensemble aujourd'hui, c'est pas décidé à l'avance, il n'y a pas de petits arrangements entre amis, on va trouver un huissier, maître Charvette, qui est bien connu dans le milieu. Voici donc le frelon du tournoi.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Voilà, pas de triche possible, ni de petits arrangements entre amis, je vous l'ai dit, j'attends donc vos propositions, on va choisir un joueur de l'équipe de France et un joueur international, et on verra ensuite qui est désigné frelon du tournoi. On va commencer par toi, tu es le plus ancien quand même, Denis, évidemment, honneur aux cheveux blancs, Denis Charvette, maître huissier.
Allô, Denis.
Le plus légitime, comme on dit Pierre Amiche.
Merci Pierre. Le seul à avoir disputé une finale de Coupe du Monde ici, je le confirme. Wilfried n'est pas allé loin non plus.
On parle de quoi? Des Français,
des finales de Coupe du Monde.
Les deux, donc j'ai monté quelques disques. Au niveau de l'équipe de France, je prends Charles Olivon, qui pour son rôle, au-delà même de son rôle de joueur, donc voilà, son rôle de capitaine.
Tu as vu que le sélectionneur l'a félicité en direct pendant la conférence.
Ouais, mais c'est compliqué pour lui d'assumer les deux tâches, et je trouve qu'il a été performant en tant que joueur. On l'a vu contre le Pays de Galles, c'est lui qui a rassemblé, c'est lui qui est allé chercher cette victoire avec ses copains, mais voilà, lui, pour moi, c'est pas la surprise, parce que il a...
La confirmation.
Une confirmation, voilà.
Manu, ton français, ton bleu... préféré de ce tournoi.
Julien Marchand. Parce que gros tournoi, parce que exemplaire, parce que taillé dans le roc, parce que il a tout pour être le. Il est déjà un très très grand talonneur, et il nous a montré un tournoi exceptionnel. À part ce dernier match, sur la régularité, il a été formidable.
Julien Marchand, donc talonneur du 15 de France, c'est le choix de Manu Massicard. Jeff.
Gaël Ficou.
Ah bah. D'accord. Pourquoi? Je suis d'accord avec toi.
C'est pas un hasard, hein, Christophe, si on est d'accord tous les deux, je pense. Non, mais c'est vrai que c'est l'homme qui rassure derrière, 63 sélections. C'est quelqu'un d'indispensable dans cette équipe de France, même si pour moi, le mettre à l'aile, c'est un peu un gâchis. Parfois, je trouve qu'on n'exploite pas toutes ses qualités.
Ah, mais chaque fois qu'il avance, il casse les plaquages. Il a été bon. Hein, c'est un des rares qui a été très performant.
Non, il est dans cette position d'élite intéressant, parce qu'il peut être premier attaquant, il peut revenir à l'intérieur. Je sais pas, peut-être que c'est peut-être le poste qui lui convient, on ne sait jamais.
Bon, en tout cas, moi je suis d'accord avec Jeff. Donc, il y a deux points pour Gaël Ficou.
Bam.
On va voir si Wilfried peut changer la donne ou non.
Alors moi je vais vous mettre le bordel, parce que je vais voter. Alors, je vais vous dire, je vais pour vous remettre le bordel. Non, parce qu'il y a deux choix. Il y a un choix du terrain vrai et un choix un peu du cœur. Le choix du terrain, je pense que Denis a raison, parce que Charles Olivon a été exceptionnel, meilleur preneur de balle en touche du tournoi, meilleur plaqueur français, deuxième plaqueur du tournoi. Et non seulement il était bon sur le terrain, mais il était bon en dehors. Et il a pris l'habit du capitaine, et il a dû écoper, parce qu'il y a eu des polémiques, il y a eu des choses comme ça. Et il l'a fait avec Fabien Galthié, c'est passé crème, parce qu'il c'est chiant, mais c'est très bon pour l'équipe, et c'est comme ça. Donc je vais voter pour lui, mais je pense qu'il y a un joueur qui est exceptionnel et qui est peut-être le meilleur du monde à son poste, c'est pilier gauche. C'est Cyril Bailly. Parce qu'il a une tenue en mêlée exceptionnelle, et parce qu'il joue comme un 3 quarts centre. Et dans notre jeu, quand il est placé dans la ligne de 3 quarts et que vous avez un numéro 1 qui joue de la balle des 2 contre 1, qui relève les ballons comme ça, c'est très précieux. Mais bon, je vais dire Charles Olivon, parce que sur l'ensemble avec tout extérieur du terrain et sur le terrain, Charles Olivon.
Bon, moi je déteste la défaite, alors je dis aussi Charles Olivon.
D'accord.
bah voilà. On se croirait à l'élection de la Ligue.
Alors, Maître Charvette.
Le frelon a été décidé à l'unanimité. Charles Olivon.
C'est Bouscatel. C'est Bouscatel.
Pas à l'unanimité.
Wilfried, il va se prendre personne. Manu, il
c'est l'élection de la Ligue.
L'élection, c'est n'importe quoi. Cette fille-ci, on va le virer.
Écoutez, on est au rugby ici ou pas?
Cette fille-ci. Mais toutes les élections se passent comme ça en rugby. Arrêtez.
Mais oui. Tiens, mon ami.
Alors, un nom maintenant pour le frelon du tournoi. Parce que les Français, c'est bien, mais ils terminent que deuxième. Alors, votre joueur préféré du tournoi, Denis?
Alors, j'ai pris un Irlandais, Henshaw, le trois-quarts centre irlandais, qui a été impressionnant. On le connaît, mais alors, il a toujours été performant, mais surtout, il fait des ravages dans les défenses. D'accord. Je trouve qu'il est à son meilleur niveau et une efficacité déconcertante à ce poste de 3-4 centre qui n'est jamais un poste évident dans le rugby moderne.
Jeff.
Hello Wyn Jones, cinquième tour de destination.
Mais pour l'ensemble de son œuvre ou pour ses performances
en tournoi? Pour le leadership, pour ce qu'il amène sur le terrain, il est indispensable.
Et contre l'équipe de France, il a été énorme. Ah ouais. Les stats qu'il a sur le match contre la France.
La première mi-temps, pas la fin de match. Hein.
Il a pas le grand chelem.
Ah non, il en a déjà 3.
Il a déjà 3, c'est déjà pas mal. Hello Wyn Jones, donc pour Jeff. Manu.
Riz Amit,
l'ailier gallois, évidemment.
La révélation.
La révélation, ouais. Qui est un incroyable joueur de rugby.
Ça serait
bien
s'il était français, celui-là.
Mais tu sais qu'il est anglais, normalement.
Ouais. Il est d'Angleterre. Ouais. Anglais, gallois, écossais, tu sais.
Oui, c'est pareil.
Mélange. Wilfried.
Amish Watson, parce qu'il a tué les Anglais au premier journée, il a tué les Français à la fin.
Et 1m85, c'est un producteur.
Ouais, en plus, avec sa coupe mulet et son 1m85, c'est quand même très rare pour un troisième ligne d'être si petit. Mais alors,
moi, c'est celui que j'avais choisi, Amish Watson.
Pour moi,
qui m'a époustouflé ce vendredi. Et voilà. Bah donc là, c'est plus clair, les gars, non? À moins que Pierre Amish, justement, ait envie de donner son avis.
C'est ce cher Watson qui va être élu, alors.
Il m'avait dit, ah ouais, non mais ça nous arrange pas, il avait dit Hello Wyn Jones, donc on est de nouveau à égalité, c'est pas possible.
Oh putain.
Alors c'est moi qui tranche. Non mais moi je change.
C'est moi qui tranche.
Encore un coup de Didier Lacroix.
C'est moi qui tranche et je dis Watson sera élu, le frelon est trop.
D'accord, voilà. Amish Watson est donc
Didier. J'ai eu Didier, il faut voter Amish.
Très bien, donc on a décidé, donc Charles Olivon, capitaine du 15 de France pour frelon bleu et Amish Watson, ce flanqueur écossais qui nous a fait beaucoup de mal. Bah oui, t'es un peu notre phare de la pensée entre les poteaux, mon cher Wilfried. Un titre de frelon qui ne reviendra pas, vous l'avez compris, la Fédé, plus particulièrement à sa communication, pour le moins défaillante durant ce tournoi. C'est pas moi qui le dis, c'est aussi Pierre Amiche qui a décidé d'ouvrir la boîte à gifles.
RMC, entre les poteaux, la boîte à gifles.
Alors Pierrot, quand les choses sont bien faites, tu le dis, mais quand elles sont à chier, tu le dis aussi. Et là, je crois qu'on est plutôt dans la deuxième option, non?
Ah, quelle vie les amis, quel tournoi, quelle folie. On gagne un match qu'on aurait dû perdre, on perd un match qu'on avait gagné, on saccage une victoire annoncée dans le tournoi en faisant n'importe quoi avec la bulle sanitaire. Mais surtout, le 15 de France a inventé un truc unique, breveté, une idée révolutionnaire qui va rester dans l'histoire de la pandémie et du rugby, le concept d'être irresponsable mais pas coupable. Hein. En gros, je vous explique, on fait n'importe quoi, on rigole, on fait des pégras, on va bouffer des gaufres, mais on s'excuse surtout pas, on demande jamais pardon, ça c'est hyper important. On dit qu'on a bien respecté le protocole, mais que la bulle, franchement, on n'a rien compris, c'était pas clair. Et que c'est la faute de personne, hein. personne. Mais le plus important, c'est après. Derrière, on se fout ouvertement de la gueule du monde en deux étapes. Étape 1, on diligente une enquête interne pour prouver son innocence aux yeux du monde. Alors, on n'est jamais mieux innocenté que par soi-même. Étape 2, une fois que l'enquête a démontrer qu'on avait fait n'importe quoi mais qu'on est intouchable, on attaque les gens qu'on dit que c'était débile d'aller en ville pour bouffer des gaufres, d'aller voir un match avec son fils à Jean-Bouin, d'aller faire un tour au marché à Biarritz ou se balader, le masque sous la truffe en serrant des paluches à tout le monde, on fait des messages, des textos, des tweets pour être sûr de passer pour des génies du Covid en pleine pandémie. Et puis si en termes de comportement, on n'est pas là pour donner d'exemple, hein, on a bien compris, le 15 de France et ses patrons, ils ont réussi un tour de force aussi, c'est d'être en plus super vantard. Super vantard. Et ouais, on fait un gros caca et on le poste sur les réseaux sociaux. Un tweet à 24 heures du match décisif face à l'Écosse et au moment de la journée internationale de la gaufre. Ça c'est formidable. Les mecs, ils ont créé un doublon de plus, ils ont tué l'équité du tournoi, ils sont passés pour les plus gros blaireaux du rugby mondial en pétant un cluster, ils ont qu'à contaminer des joueurs et potentiellement leur famille, leur club, mais ça c'est rigolo. Une gaufre, ah, ça c'est rigolo. Heureusement que c'était pas la journée internationale de l'humilité, sinon c'était la galère, on pouvait rien faire. À une semaine près, ça tombait le 1er avril, là à la limite, et je dis bien à la limite, c'était juste lourd. Bon. Mais mon message communication préféré, c'est au
moment des hymnes. Hein, France-Écosse, après une tornade médiatique, des gens vexés au ministère, et après que des centaines de personnes soient venues dire au community manager des Bleus que c'était pas rigolo du tout, Serge Simon, ex-Covid manager déchu sans masque dans les tribunes officielles, sous les yeux de 8 millions de Français. Le stade d'après, il déroulait une pancarte, je vous emmerde avec vos gestes barrières, tas de cons, il n'y avait pas au niveau au-dessus. À l'issue d'hallucination, l'Italie connaissait la cuillère de bois, Jeff, Will et Manu connaissaient la langue de bois, Denis et Christophe connaissaient la gueule de bois. On a découvert l'humour en bois, c'est pas très joli, c'est lourd et on pourrait ramasser des copeaux un peu partout dans les mois à venir, coup de bol. Et c'est un miracle, en dépit de tout ça, on a une super équipe, ça c'est étonnant. Reste plus qu'à tout ce beau monde à être à la hauteur de leurs joueurs.
Voilà, Pierre Amiche qui, je le rappelle, a quand même été le producteur de Serge Simon dans ses jeunes années.
Tu joues un peu ta vie avec Serge.
On n'est jamais trahi que par les siens.
Son numéro c'est 06-12.
On n'est jamais trahi que par les siens.
24-46.
Tu prends des risques, c'est bien, bravo.
Denis, ton avis là-dessus, je vais te mettre
d'abord. Non, j'ai aucun avis, moi.
Non, demande à Manu. Je sais que tu as dîné avec le bon président.
Ça m'arrive.
Et alors, qu'est-ce qu'il
en dit ? On parle pas de rugby tout le temps.
Non, couvre-feu, vous avez parlé de la gaufre quand même. Ne me dis pas que vous n'avez pas parlé de la gaufre.
Couvre-feu, c'est important. Tu sais qu'on a le droit quand même d'inviter les amis en couvre-feu.
Oui, mais après, chez toi alors.
C'était pour RMC, ça va.
Bien sûr.
Ils ont le droit de toucher chez toi aussi.
Oui, bien sûr.
Tu t'es fait avoir.
Oui, j'ai fait avoir.
Il en dit quoi de la gaufre ?
Non, je n'avais pas en parler.
Oh, menteur !
Très sérieusement. Non, non, pas du tout. Je te promets.
C'est normal.
Denis, reviens !
Tout ça pour dire que Pierre, t'as fait un très beau papier.
Merci, Denis.
Donc, tu partages l'analyse de Pierre, alors.
En partie.
Bon, très bien. La journée de la gauche, c'était une bonne idée, Denis ?
Non, une grosse connerie.
Ok.
Non, mais bien sûr que c'était une connerie, mais bon, après, voilà, on vit pas avec eux, ils sont dans une espèce de paranoïa. C'était pas à faire, voilà, c'était pas à faire, c'était pas rajouter de l'huile sur le feu, et malheureusement, je pense pas qu'on les payait cher contre l'Écosse, c'est pas ça qui a fait la différence, mais bon.
Ah, ça a pas joué en notre faveur, quand même.
C'est sûr, c'était malvenu, mais
ça dépassait les frontières en plus, hein.
Je pense qu'on doit bien se foutre de notre gueule de l'autre côté de la Manche. Autre sujet qui fâche, merci Pierre Amiche pour ce très beau papier. Le sujet qui fâche, c'est celui du prochain rendez-vous international, mais ça, la com de la FFR n'y est pour rien. Jeff, quand reverra-t-on les Bleus? Je sais que tu n'as pas encore toutes les réponses, Covid oblige, mais il y a quand même quelques options qui sont sur la table.
Ouais, effectivement, pour l'instant, c'était encore très incertain en raison de la pandémie, puisque la Fédération australienne, elle veut maintenir ce rendez-vous, et les Bleus de Fabien Galthié aimeraient y aller, puisque je vous rappelle, pour l'instant, ces Français n'ont pas encore affronté de grosses nations de l'hémisphère sud, tout simplement depuis l'ère Fabien Galthié. L'année dernière, la tournée en Argentine avait été annulée. Ce qui pose un gros souci, c'est la période de quatorzaine obligatoire, sachant que le premier test est fixé le 3 juillet, soit une semaine après la finale du top 14. Il y a une des possibilités, c'est que le groupe soit scindé en deux, qu'un groupe parte, puis après les finalistes. Ça, c'est une possibilité. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Est-ce qu'il pourrait y avoir des matchs entre équipes européennes ? La décision, normalement, a été fixée fin mars, mais ça pourrait être plutôt maintenant au mois d'avril.
Alors, contre des nations européennes, mais des nations européennes un peu affaiblies, puisqu'on pourra peut-être les battre. Il y a la tournée des Lions, donc ça veut dire que tous les cadors vont partir en Afrique du Sud. Normalement, ça rimerait à quoi ça?
C'est compliqué. Parce
contre les équipes B.
Pour l'instant, c'est potentiellement un plan B qui n'a pas encore été activé, puisque tu l'as dit, s'il y a ces matchs-là, tous les meilleurs joueurs britanniques seront en Afrique du Sud pour disputer la tournée des Lions. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de possibilité d'aller en Australie, il faudra bien que les Bleus se retrouvent, c'est l'objectif de Fabien Galthié et de sa flèche du temps qui est déjà en mille morceaux, pour continuer à jouer lors de ces matchs amicaux en Europe.
On prend des vacances quand nous
hein? Non mais s'il n'y a pas tous ces matchs,
c'est vrai que ça va en août,
ça risque d'être ridicule, enfin bon, il n'y a aucun intérêt.
Ouais,
faut éteindre ce match.
C'est quand même dommage.
Allez, on va dire que ça va aller mieux.
On espère que ça va aller mieux et qu'on pourra aller en Australie. Oui.
On verra. Mais enfin, les Australiens, ils rigolent pas du tout hein, sur le sujet Covid. 14e obligatoire. Les tennismen de l'Australian Open en savent quelque chose. Ils sont restés enfermés dans leur chambre d'hôtel pendant 14
bien
jours.
Les Bleus, là, donc ça va.
Ah oui, là-bas, on respecte et on ne joue pas à la gaufre.
Ah, là, tu vas pas sortir pour aller manger des glaces. Hein,
non. Et tu pourras pas aller dîner avec le président de la Fédé là-bas, Denis. Hein. Tu seras dans ta chambre. Tu bougeras pas. Autre question qui se pose, celle de savoir si le prochain France-Angleterre se fera encore avec Eddie Jones à la tête de la Rose. On en parle tout de suite dans Côté Fermé.
RMC, entre les poteaux.
Côté Fermé.
Oui, dans Midi Olympique, on a appris donc ce matin, mon cher Manu, que Eddie Jones et son poste avaient un peu de plomb dans l'aile. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Est-ce qu'il pourrait être viré dans les semaines qui viennent ?
Bah, c'est quand tu finis cinquième du tournoi et que tu es à la tête de l'équipe d'Angleterre, une des plus grandes équipes au monde, tu as forcément chaud aux fesses.
C'est bien payé en plus.
Et que tu es bien payé, que ton salaire plombe les caisses d'une fédération qui elle aussi est impactée par la pandémie. Donc tout ça, ça fait en plus quand tu t'offres des querelles public et que tu déclenches le courroux de tous les anciens joueurs de la Rose, du 15 de la Rose, et ben forcément tu es sur la sellette, c'est ce qui arrive aujourd'hui à Eddie Jones. Il y a aussi une histoire de renégociation qui est en cours, c'est toujours les mêmes enjeux, donc on en saura plus dans les semaines à venir, mais aujourd'hui, oui, évidemment, Eddie Jones est sur la sellette.
Ouais, il va être reçu par un panel de dirigeants, en plus ça sent pas bon, hein, ça sent le procès pour lui.
Ça dépend. C'est une enquête interne ou une enquête externe? Il faut savoir s'ils prennent les méthodes françaises ou anglaises.
En Angleterre, tu n'as quand même pas le droit à l'erreur. On rappelle que ce mec a amené son équipe en finale de la Coupe du Monde il y a moins de 2 ans. Ça peut arriver aussi de rater un tournoi.
Oui, ça peut arriver.
Mais il est très clivant. Hein.
Voilà, j'allais le dire. Moi,
c'est sa grande gueule qui peut être en cause.
Il y a quand même des problèmes en interne. Ouais. Je crois que ça commence un peu à gueuler en interne.
Nous verrons ça. Il y a des noms pour lui succéder? Vous en avez quelques-uns? Non, il n'y a pas d'entraîneur français.
Clive Woodward.
Erasmus, non?
Erasmus, ouais. Et Scott Robertson aussi.
Et Gatland, on parle.
Ouais. Et Gatland.
Mais oui, pourquoi pas. Très bien, nous verrons ça suite au prochain épisode. Ce sera pas dans le tournoi puisque le tournoi est terminé. On est un peu triste quand même. Hein. Bon, même si la Coupe d'Europe, ce sera sympa, mais c'est pas la même chose.
Ah oui,
pas la même chose. Oui. Et puis on ne sait pas quand on va les revoir. Moi, je suis attristé quand même. Voilà, je finis ce tournoi un peu, peu amoindri, un peu
chafouin. La Coupe d'Europe, c'est bien les gars aussi.
Parce que toi, t'es Toulousain, donc évidemment, la Coupe d'Europe.
Ils ne savent pas, Wilfried, ce que c'est les beaux matchs.
Les champions du monde.
Merci messieurs. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour évoquer justement les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe qui vont nous occuper tout au long du week-end. Bonne semaine, à la semaine prochaine.